Vous m'avez rappelé mes enfants. Oui, les enfants, bénédiction divine, agrément de la vie. Mais quel mensonge ! Autrefois, c'était vrai. Aujourd'hui, pour la plupart des femmes de notre monde, les enfants ne sont pas une joie, mais une inquiétude, une terreur. La plupart des mêmes l'éprouvent. Il y en a qui se laissent aller à le dire. Les enfants sont pour elles un tourment, parce qu'ils peuvent tomber malades et mourir. Si elles craignent l'enfantement, ce n'est pas qu'elles refusent leur amour aux enfants, c'est qu'elles ont peur pour la santé et la vie de l'enfant bien-aimé. C'est pour cette raison qu'elles ne veulent pas nourrir, afin de ne pas s'y attacher et de ne pas en souffrir après, trembler de peur pour leur existence. Ayant pesé les avantages et les désavantages, elles s'aperçoivent que les désavantages l'emportent et que par suite, il est préférable de ne pas avoir d'enfants. Elles le disent ouvertement. Croyant exprimer de l'amour maternel, elles en tirent fierté. Elles ne voient pas que ce n'est point là de l'amour, mais de l'égoïsme. Pour elles, les joies que leur apporte l'enfant ne valent pas leurs inquiétudes pour sa vie. Elles préfèrent donc ne pas avoir d'enfant à aimer, et elles se sacrifient point à un être aimé, mais bien sacrifient à elles celui qu'elles auraient eu à aimer. Je le dis bien, ce n'est pas de l'amour, mais de l'égoïsme. Cependant, nul n'oserait condamner les mères de notre monde pour leur égoïsme en pensant aux souffrances que leur apportent des enfants, toujours par la faute des médecins. Quand je me souviens, à cette heure encore, de l'état d'esprit où se trouvait ma femme dans les premiers temps, alors que nous avions 3 ou 4 enfants et qu'il absorbait entièrement, l'horreur me saisit. Ce n'était pas une vie, mais un perpétuel danger. Coupé d'espoir de salut, d'effort de salut, comme si nous nous trouvions constamment sur un navire en détresse. Il me semblait parfois qu'elle feignait de s'inquiéter des enfants pour me dominer. C'était si tentant de résoudre ainsi toutes les difficultés en sa faveur. Je croyais souvent que tout ce qu'elle disait ou faisait en pareille occurrence, c'était pour me mater. Mais non! Elle souffrait réellement d'anxiété pour la santé de ses enfants. Oh, ce fut une vraie torture pour elle et pour moi aussi. Et elle ne pouvait ne pas souffrir le martyre. Sa tendresse pour les enfants, le besoin animal de nourrir, de les choyer, de les défendre, était inné chez elle, comme chez la majorité des femmes. Mais contrairement à l'animal, elle n'était pas dépourvue d'imagination et de raisonnement. Une poule ne craint pas les accidents pouvant survenir à son poussin. Elle ne connaît pas les maladies qui guettent son enfant, ni les remèdes que les humains croient efficaces contre le mal et la mort. Aussi, les enfants ne sont-ils pas un motif de souffrance pour la poule ? Elle agit envers ses enfants suivant sa nature, et c'est pourquoi ils sont pour elle une joie. Lorsqu'un poussin tombe malade, les soins de la mère sont parfaitement déterminés. Elle le réchauffe, le nourrit, et en s'y employant, elle sait qu'elle fait tout ce qui convient de faire. Si le poussin meurt, elle ne se demande pas pourquoi il est mort, où il est parti. Elle glousse pendant quelque temps, puis reprend son existence. Les choses se passent bien autrement chez nos malheureuses femmes. Outre leurs préoccupations en cas de maladie des enfants, elles sont tenues au souci de l'éducation. Elles entendent formuler et apprennent dans les livres des recettes variées et successives de pédagogie et d'alimentation. Il faut nourrir avec ceci, non avec autre chose. Savoir comment habiller, baigner, faire dormir, promener, et chaque semaine, les méthodes changent. C'est à croire que les enfants viennent au monde depuis hier seulement. Il en est ainsi tant que l'enfant est bien portant, mais quand l'enfant tombe malade, c'est l'enfer. Il est admis que toute maladie trouve son remède et qu'il existe une science et des hommes, les médecins, qui peuvent tout. La généralité des médecins n'est peut-être pas avertie à fond. Il est admis que, du moins, les plus en vogue le sont. Il importe donc, pour sauver l'enfant, de savoir choisir le docteur le plus savant. Mais si on le manque, ou s'il habite une localité lointaine, l'enfant est perdu. Oh, ce n'est pas telle ou telle femme qui pense ainsi, mais toutes les femmes de notre monde. Elles ne cessent d'entendre autour d'elles. Catherine Semyonovna a perdu 2 enfants parce qu'elle n'avait pas fait venir à temps Ivan Saranievitch, le même qui a sauvé la fillette de Maria Ivanovna. Oh, les Petrov, par contre, ont suivi à temps les conseils du docteur de s'installer dans des hôtels, et tous les enfants sont restés vivants. Si on les avait laissés à la maison, les enfants seraient perdus. Une autre avait un enfant de santé fragile. Sur le conseil du docteur, on l'a transporté dans le midi et on l'a sauvé. Comment ne pas souffrir l'existence durant, quand la vie des enfants auxquels la mère est attachée par un instinct animal dépend de l'avis pris à temps d'Ivan Zakharievitch? Or, nul ne sait, lui moins que les autres, ce qu'il dira, car il sait fort bien qu'il ne sait rien, ne peut aider en rien, il prescrit n'importe quoi pour qu'on continue à croire qu'il sait quelque chose. Si la femme ressemble à l'animal, elle ne se tourmenterait pas ainsi. Si elle était complètement un être humain, elle aurait foi en Dieu, elle parlerait et penserait, comme disent les croyants et les femmes du peuple, « Dieu nous a donné, Dieu nous a repris, nous sommes entre les mains de Dieu. » Elle penserait que la vie et la mort de tous les hommes ne sont pas de notre pouvoir, mais dépendent de Dieu seul. Elle ne serait pas tourmentée par l'idée d'avoir pu prévenir la maladie et la mort de ses enfants et de ne l'avoir pas fait. En réalité, elle se sent sous le poids d'une tâche dépassant ses forces. Elle doit prendre soin des êtres les plus fragiles, les plus exposés aux maux, et les moyens de les en préserver lui sont cachés, alors qu'ils sont connus d'autres dont les services et les conseils ne peuvent être obtenus que contre une forte somme d'argent, et pas à coup sûr. Comment ne pas se tourmenter? Et ma femme souffrait continuellement. Il nous arrivait de nous calmer après une séance de jalousie ou une simple querelle, et nous nous disposions à passer des moments de paix, à réfléchir, à lire. Mais à peine nous mettions-nous à une occupation intéressante, qu'on venait nous annoncer que Vassia a vomi, ou Matcha a une selle sanguinolente, ou Andriusha est atteint d'urticaire, et l'enfer recommençait. Où courir? Mais quel médecin appeler? Où conduire les enfants pour les séparer les uns des autres? Et recommence lavement, prise de température et injection de mixture. L'alerte passée, une autre survenait. Bref, nous n'avions jamais eu une vie de famille, calme et régulière. Nous étions, comme je vous l'ai dit, en attente perpétuelle de dangers imaginaires ou en lutte contre des dangers réels. Et il en est ainsi dans la plupart des familles. Dans la mienne, ce fut avec plus d'acuité, car ma femme était particulièrement attachée à ses enfants et croyait à tout ce qu'on lui racontait. Ainsi, nos enfants n'ont-ils pas contribué à adoucir nos relations, à nous unir plus intimement? Au contraire, ils accentuèrent notre désunion, étant une cause de plus de querelles. Dès leur naissance, ils furent pour nous une arme de combat, un prétexte à dispute. Chacun de nous avait son favori qui devenait pour lui une arme dans la lutte. Moi, je m'en prenais à Vassia, à l'aînée, elle à Lisa. Et quand ils eurent grandi, que leur caractère fut dessiné, nous les considérions comme des alliés que chacun de nous voulait attirer de son côté. Leur éducation souffrait énormément de cette situation. Mais dans nos querelles perpétuelles, nous ne pouvions guère songer à ces pauvres enfants. La fillette était mon alliée. Quant au garçon, le favori de ma femme, et qui lui ressemblait, je me prenais souvent à le haïr. C'est ainsi que nous avons vécu. Nos rapports devenaient de plus en plus hostiles, pour en arriver au point que ce n'était plus nos divergences d'opinion qui provoquait l'hostilité, mais bien la permanence de notre hostilité qui suscitait la divergence. Quel que fût son dire, a priori, j'opinais autrement, elle de même. À la quatrième année de notre mariage, il fut acitement décidé que nous étions incapables de nous comprendre. Nous nous entêtions obstinément dans notre opinion tous deux, quel que fût le sujet, surtout sur la question des enfants, sans essayer de nous convaincre. Elle trouvait sans doute qu'elle avait entièrement raison contre moi, et moi je me prenais pour un vrai saint auprès d'elle. En tête à tête, nous étions réduits au silence, ou à des propos que certainement les animaux peuvent tenir entre eux. Quelle heure est-il? Ah, il est temps d'aller se coucher. Quel est le menu du dîner? Où irons-nous aujourd'hui? À quoi de nouveau dans le journal? Il faut envoyer chercher le docteur, Micha mal à la gorge. Et dès que nous sortions, pour si peu que ce fût, de ce cercle étroit à l'extrême de nos entretiens habituels, l'orage éclatait. Les querelles, la haine naissaient à propos du café, de la nappe, d'une voiture, d'une photo-jeu, d'un tas de vétilles sans importance, ni pour l'un ni pour l'autre. Et pour ma part, je la haïssais parfois de toute mon âme. Je la regardais se verser le thé, remuer le pied, porter la cuillère à sa bouche, souffler pour refroidir le liquide et enfin l'avaler, et pour cela, comme pour de mauvaises actions, je la haïssais. Je n'avais pas remarqué la corrélation qui existait entre les périodes de haine et les périodes de ce que nous appelions amour. Toujours l'une suivait l'autre. Une période d'amour plus intense entraînait une plus longue période de haine, et après un amour de courte durée, la colère s'apaisait vite. Nous ne comprenions pas alors que cet amour et cette haine étaient engendrés par le même sentiment, mais qu'ils en étaient les deux pôles. Si nous avions bien vu le fond de notre situation, notre vie eût été terrible, mais nous étions complètement aveuglés, nous ne comprîmes pas. C'est en cela précisément qu'est la punition et le bonheur de l'homme, en ce qu'il peut, par sa façon irrégulière de vivre, s'illusionner sur la tristesse de sa situation. Et c'est ce qui nous arriva. Elle cherchait à s'oublier en de nombreuses occupations, les soins du ménage, sa propre toilette, l'instruction et surtout la santé des enfants. Ces diverses occupations ne répondaient pas à un besoin direct, et cependant sa vie entière et celle de ses enfants semblaient dépendre du degré de cuisson des petits pâtés, des rideaux changés, des robes finies, des devoirs faits, des leçons sues, et des remèdes pris à l'heure. Mais il ne m'échappait pas que tout cela n'était que moyen d'oublier une sorte d'ivresse dans le genre de celle que je trouvais de mon côté dans mes fonctions aux Ebsvaux, dans la chasse, le jeu. Tous les deux, nous sentions que plus nous étions occupés, chacun de son côté, plus nous avions le droit d'en vouloir à l'autre, nos scènes de ménage troublant nos occupations. Les théories nouvelles sur l'hypnotisme, les maladies mentales, l'hystérie, ne sont point des conceptions inoffensives. Elles sont au contraire pernicieuses et dangereuses. Le docteur Charcot, j'en suis sûr, aurait trouvé ma femme hystérique, moi-même anormale, et aurait voulu nous donner des soins. Et cependant, il n'y avait rien à soigner en nous. Notre maladie mentale découlait de l'immoralité de notre existence. Cette brume dans laquelle nous vivions nous mettait dans l'empêchement absolu de voir notre situation sous son vrai jour. Et sans la catastrophe qui se produisit par la suite, j'aurais ainsi atteint ma vieillesse et, à mon lit de mort, j'aurais cru avoir mené une existence morale, pas plus mauvaise tout au moins que celle de mes semblables. Je n'aurais pas l'intuition de l'abîme de souffrance et de mensonges vils dans lequel je me débattais. Nous étions comme deux galériens rivés à la même chaîne, qui se haïssent, empoisonnent mutuellement leur vie et font tous les efforts pour ne point s'en apercevoir. Je ne savais pas alors qu'il en était de même dans les 99 centièmes des ménages, et que cette situation est fatale, je ne le savais ni par les autres, ni par moi-même. Elles sont surprenantes, les coïncidences qui se rencontrent dans la vie régulière et même irrégulière. Quand la vie est ainsi devenue impossible entre les parents, il se trouve que le moment est venu d'aller dans une ville pour l'éducation des enfants. C'est ce que nous fîmes, nous allâmes habiter la ville. » Poznichev se tut. Il fit entendre deux ou trois fois le bruit singulier qui cette fois me parut comme un sanglot comprimé. Nous approchions d'une station. « Quelle heure est-il ? » demanda mon compagnon. Je consultai ma montre, il était 2 heures. « Vous n'êtes pas fatigué ? » fit-il. « Non, mais c'est vous qui êtes fatigué. »« Oh, je suis oppressé. Excusez, j'irai faire un tour et boire un verre d'eau. » Il traversa le wagon en chancelant. Je demeurai seul et fus tellement absorbé par mes réflexions sur ce qu'il m'avait dit que je ne l'ai pas vu rentrer par la porte opposée. Il reprit, aussitôt réinstallé. « Oui, je m'écarte à chaque instant de mon récit. C'est que j'ai beaucoup réfléchi. J'envisage bien les choses sous un autre angle et je tiens à tout vous dire. » Nous nous fixâmes donc en ville. Là, l'existence est plus supportable pour les malheureux. On peut y atteindre l'âge de 100 ans. Sans s'apercevoir, on est pourri et mort depuis longtemps. On n'a pas le temps de songer à soi, on est toujours absorbé. Les affaires, les relations, les maladies, les plaisirs de l'art, la santé des enfants, leur éducation. On reçoit des visites, on en fait à droite et à gauche. On va voir tel acteur, entendre telle chanteuse. Dans toute ville, il y a 2 ou 3 célébrités qu'il faut forcément connaître. On est pris tantôt par sa propre santé, tantôt par celle de tel ou tel enfant, par les instituteurs, les professeurs, les gouvernantes. Et néanmoins, la vie reste vide et sans intérêt. Nous vivions ainsi et nous souffrions moins de notre vie commune. Au début d'ailleurs, nous étions absorbés par l'arrangement de notre nouvelle existence. C'était pour nous une excellente occupation. Puis nous avions les voyages de la ville à la campagne et de la campagne à la ville. Un hiver s'écoula ainsi. Dans le second hiver arriva un incident qui passa inaperçu, qui semblait de minime importance, mais qui, au fond, fut le point de départ de l'événement final. Ma femme tomba malade. Les médecins lui prescrivirent et lui enseignèrent les moyens d'éviter toute conception nouvelle. J'en conçus un dégoût profond. Je voulus m'y opposer, mais avec une légèreté opiniâtre, elle insista, et je dus me rendre. La dernière justification de notre existence immorale, les enfants, nous était défendue. Notre vie n'en devint que plus ignoble. Le paysan, l'ouvrier ont besoin d'enfants, bien qu'ils aient de la peine à les élever. C'est là la justification de leur relation conjugale. Mais nous, dès que nous en avons quelques-uns, nous n'en désirons plus. Ce ne sont que soucis, dépenses, cohéritiers, une vraie charge. Dès lors, plus d'excuses pour l'impureté de notre existence, pour les moyens artificiels que nous employons. Mais nous sommes tellement dégradés que nous ne jugeons pas cette excuse nécessaire. La plupart des gens cultivés s'adonnent aujourd'hui à cette débauche sans le moindre remords. Comment pourrait-il y avoir remords, puisque nous n'avons plus de conscience, à part la conscience de l'opinion publique, si l'on peut lui donner ce nom, et celle du code pénal. Ici, ni l'une ni l'autre ne sont touchées. L'opinion publique ne saurait nous gêner. Presque tous, Madame X comme Monsieur Y, font de même. Et comment ferait-il autrement, à moins d'augmenter le nombre des mendiants ou de se priver des plaisirs de la vie mondaine? Le code pénal ne nous gêne pas davantage, et nous n'avons pas à le craindre. Ce sont les filles perdues et les femmes à soldats qui jettent leurs enfants dans un puits ou dans une mare. Celles-là, on les met en prison. Chez nous, tout se fait en temps opportun et proprement. Nous vécûmes ainsi 2 ans encore. Le moyen conseillé par les canailles de la faculté avait donné d'excellents résultats. Ma femme se développa et embellit comme une fleur d'automne. Elle le sentait et s'occupait beaucoup de sa personne. Elle en était arrivée à cette beauté provocante qui excite les hommes. Elle était dans tout l'éclat d'une femme de 30 ans, débarrassée de tout devoir maternel, bien nourrie et excitée. Sa vue faisait peur, comme celle d'un cheval oisif et fougueux auquel on vient d'enlever les rênes. Comme pour 99% de nos femmes, il n'y avait plus de frein à sa conduite. Je m'en aperçus, et j'en fus épouvanté. Poznichev se leva soudain et s'assit près de la fenêtre. « Excusez-moi, » fit-il. Puis il demeura 3 minutes, le regard fixé dehors. Ses traits s'altérèrent. Son regard terne prit une expression piteuse et un étrange sourire plissa ses lèvres. Il soupira profondément, puis se rassit en face de moi. « Oui, » reprit-il après avoir allumé une cigarette. Dès qu'elle cessa de concevoir, elle commença à prendre l'embonpoint, et sa maladie, ses inquiétudes constantes pour ses enfants, passa. Le fait important ne consista pas dans la disparition de cette maladie, mais en ce qu'elle se réveilla comme d'une torpeur, qu'elle vit un monde rempli de joie, sans nombre, un monde qui lui était resté caché jusque-là, dans lequel elle n'avait pas appris à vivre, qu'elle ne comprenait pas. Il faut jouir du moment, le temps passe et ne revient plus. Voilà, je crois, quelles étaient ses pensées, ou plutôt ses sentiments. D'ailleurs, elle ne pouvait ni sentir ni penser autrement. Son éducation lui avait implanté l'idée qu'une seule chose est ici-bas digne d'attention, l'amour. Elle s'était mariée, avait un peu goûté de cet amour, mais moins bien qu'elle ne l'avait espéré. Et que de déception, que de souffrance. Et ce martyr inattendu, les enfants. Ce martyr l'avait exténué. Par l'obligeance de messieurs les docteurs, elle apprend un beau jour que l'on peut parfaitement se passer d'enfants. Cela lui avait causé une vive joie que l'expérience ne fit qu'accroître, et elle continua à vivre pour la seule chose qu'elle connut, pour l'amour. Mais l'amour pour un mari souillé de jalousie et de haine n'était plus son idéal. Elle rêvait d'une autre tendresse, nouvelle, plus pure. C'était du moins l'idée que je me faisais d'elle. Elle épiait de tous côtés comme si elle attendait quelque chose. Je le remarquais et une anxiété profonde m'envahit. Partout et toujours, quand elle causait avec moi par l'intermédiaire de tiers, c'est-à-dire quand elle parlait avec des étrangers, mais avec l'intention de me le faire entendre, elle répétait bravement, oubliant qu'une heure avant elle avait dit le contraire, elle répétait, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, que les soucis maternels étaient une erreur et qu'il ne valait pas la peine de donner la vie à des enfants tant qu'on est jeune et qu'on peut jouir de la vie. Dès lors, elle s'occupa moins des enfants, ne faisant pas preuve à leur égard du même dévouement qu'autrefois, mais par contre, plus préoccupée d'elle-même, de son extérieur, bien qu'elle cherchât à le dissimuler, de ses plaisirs et même de son perfectionnement en certaines choses. Elle se remit avec enthousiasme au piano qu'elle avait complètement négligé. Ce fut là l'origine de la catastrophe. Poznichev tourna de nouveau son regard fatidique vers la vitre, puis, ayant fait un effort sur lui, il reprit. À ce moment parut l'homme. Poznichev s'arrêta et fit entendre 2 ou 3 de ses singuliers reniflements. Je pensais qu'il lui était pénible de nommer cet homme et de se ressouvenir. mais il fit un geste énergique comme pour écarter l'obstacle qui obstruait sa route et continua d'un ton décidé. C'était un vilain monsieur, à mon sens, non par le rôle qu'il a joué dans ma vie, mais parce qu'il était réellement tel. Ce fait, d'ailleurs, que c'était un vaurien, m'amène à conclure à l'irresponsabilité de ma femme en cette action. Si ce n'avait pas été lui, c'eût été un autre. Il se tut un moment, puis... C'était un musicien, un violoniste, non un musicien de profession, mais mi-homme du monde, mi-artiste. Son père, propriétaire d'importants domaines et voisin du mien, s'était ruiné. Les enfants, trois garçons, s'étaient débrouillés tout seuls. Notre homme, le cadet, fut envoyé chez sa marraine à Paris. Il entra au conservatoire. Il faisait preuve d'un certain talent musical, en sortit violoniste et joua lors des concerts. C'était un homme... Sur le point de dire du mal de cet homme, Poznichev se retint, puis après une légère pause, continua brusquement. En vérité, j'ignore quelle était sa vie. Je sais seulement qu'en cette année-là, il revint en Russie et fut introduit chez moi. Il avait des yeux humides, fendus en amande, les lèvres rouges et souriantes, de petites moustaches retroussées, une coiffure à la dernière mode. Il était joli, mais d'un visage commun. En un mot, ce que les femmes appellent un beau garçon, une taille fine, presque une taille féminine et bien proportionnée cependant. Son bassin était très développé, comme chez une femme, comme chez les Hottentots, dit-on. Ils sont aussi très musiciens, prétend-on. Assez promptement familier, mais sachant se retirer à la moindre froideur et conserver sa dignité, il avait un je ne sais quoi de parisien, avec ses bottines à boutons, ses cravates aux couleurs claires, et faisait une excellente impression sur les femmes par ce quelque chose de particulier et de nouveau qu'il portait sur toute sa personne. Ses manières étaient d'une gaieté factice. Il parlait par allusion, par phrases inachevées, comme si son interlocuteur eût été au courant de tout et qu'il eût voulu plutôt l'aider lui-même à se ressouvenir que de lui faire un récit. C'est cet homme avec sa musique qui fut cause de tout. Aux assises, on l'a tout mis sur le compte de ma jalousie. Ce n'était pas exact, du moins complètement. Au jugement, on décida que j'avais été trompé, que je l'avais tué pour venger mon honneur outragé. C'est bien à leur langage, n'est-ce pas? Et je fus acquitté. Je voulais leur expliquer le vrai motif. Ils crurent que j'avais l'intention de réhabiliter l'honneur de ma femme. Du reste, ces rapports avec le musicien, quels qu'ils aient été, furent sans importance pour moi comme pour elle. La seule chose importante est ce que je vous ai raconté, savoir ma turpitude. Tout le drame vient de l'arrivée de cet homme chez nous, où nous étions plongés dans la plus désespérable confusion, dans cette haine mutuelle dont je vous ai parlé, au moment où la moindre goutte d'eau devait suffire à faire déborder le vase. Nos disputes terribles, vraiment dans les derniers temps, avaient cette conséquence étonnante qu'elles provoquaient en nous des excès de passion bestiale. Si cet homme n'était venu, c'eût été un autre. Si je n'avais pas eu la jalousie comme prétexte, j'en aurais trouvé un autre. Je suis profondément convaincu que tous les hommes qui vivent de la vie conjugale dont je vivais doivent se livrer à la débauche ou divorcer, ou se tuer, ou tuer leur femme, comme j'ai fait moi-même. Celui auquel cela n'arrive pas est un oiseau rare. Avant le dénouement, j'ai été plus d'une fois sur le point de me suicider, et plus d'une fois ma femme a tenté de s'empoisonner. Oui, ce fut là notre existence, peu de temps avant que l'autre parût. Ce furent comme des moments de trêve. Mais voici que nous nous entretenons d'un chien qui avait reçu une médaille à l'exposition canine. Elle me reprend, pas de médaille, une mention. La dispute commence. On passe d'un sujet à l'autre, les reproches succèdent aux reproches. Oui, c'est toujours ainsi, constamment, la même histoire. Tu as dit que non, je n'ai pas dit ça, alors j'ai menti, etc., etc. La crise épouvantable approche et grandit, me poussant au meurtre ou au suicide. La crise est là, je la redoute comme le feu, je voudrais me retenir, mais la colère m'emporte. Ma femme est dans le même état, dans un état pire sans doute. Elle dénature tous mes mots et y glisse comme du venin. Tout ce qui m'est cher, elle le ravale et le traîne dans la boue. La crise augmente d'intensité. Je crie « Tais-toi !» ou quelque chose de semblable. Elle se précipite hors de la chambre et court à la chambre des enfants. Pour finir ce que j'ai à dire, je veux la retenir et la prends par le bras. Elle fait semblant d'avoir mal. « Les enfants !» s'écrie-t-elle, « votre père me bat !»« Ne mens pas !» lui dis-je. Elle continue pour augmenter mon irritation. « Mais c'est pas la première fois !» Les enfants s'élancent vers elle et elle cherche à les tranquilliser. « Ne fais pas l'hypocrite !» lui dis-je. « Mais toute hypocrisie pour toi. Tu es capable de tuer quelqu'un et de prétendre qu'il fait semblant d'être mort. » Oh, j'ai compris, maintenant je vois ce que tu veux. Oh, je voudrais te voir cramer comme un chien, m'écriai-je. Je me rappelle quelle horreur monta en moi à la suite de cette parole. Je n'aurais jamais cru pouvoir prononcer des mots aussi effroyables. J'en suis encore stupéfait aujourd'hui. J'allais m'asseoir dans mon cabinet et je me mis à fumer. Je l'entendis dans l'antichambre se préparer à sortir. « Où vas-tu ? » lui demandai-je. Elle ne me répondit pas. « Eh bien, que le diable l'emporte, pensais-je. » Et je retournai m'allonger sur le sofa de mon cabinet et me remettre à fumer. Ma tête est toute bouleversée des milliers de plans que je forme. Comment me venger d'elle? Comment m'en défaire? Comment arranger les choses? Faire comme si rien ne s'était passé? Je remue toutes ces idées et je fume toujours, je fume, je fume. Je songe à la quitter, à me cacher, à fuir en Amérique. J'allais jusqu'à penser comme il serait beau d'être débarrassé d'elle, de posséder une autre femme, belle, jeune, nouvelle. Mais pour être libre, il faut sa mort ou le divorce. Comment atteindre ce but? Mes idées se troublaient, je le sentais, et pour ne point m'apercevoir que mes pensées s'engageaient dans une mauvaise voie, je me mis à fumer de plus belle. Le train-train de la maison continue. La gouvernante vient demander où est madame, quand elle rentrera. Le domestique, s'il doit servir le thé. J'entre dans la salle à manger, les enfants y sont déjà. Lisa darde ses regards sur moi, regards interrogateurs et hostiles. Elle ne vient pas. La soirée se passe. Elle ne rentre toujours pas. Deux sentiments luttent en moi, la colère contre elle, pour ce tourment qu'elle nous cause, à mes enfants et à moi, par cette absence sans but, puisqu'il lui faudra bien rentrer, puis la peur qu'elle ait attenté à ses jours. Mais où la chercher? Chez sa sœur? Ça a l'air bête d'aller s'enquérir de sa femme. À la gare de Dieu. Et si elle a décidément besoin de tourmenter quelqu'un, qu'elle se tourmente elle-même. Mais si elle n'est pas chez sa sœur, si elle s'est déjà fait quelque mal. 11 heures sonne, puis minuit, 1 heure. Je ne dors pas, je ne vais pas dans la chambre à coucher. ça paraît bête d'attendre seul. Je veux m'occuper, lire, écrire. Rien. Je suis là, seul, dans mon cabinet de travail, tourmenté, en rage, et j'écoute. Elle ne vient toujours pas. Vers le matin, je m'endors. Je me réveille, elle n'est pas rentrée. Dans la maison, le train a repris. Tous me regardent d'un air étonné et interrogateur. Les enfants d'un air de reproche. Je suis toujours partagé entre la colère pour les souffrances qu'elle me cause et l'inquiétude pour elle. Vers 11 h du matin arrive sa sœur en ambassadrice. Alors commence le défilé des clichés. Elle est dans un état terrible. Mais que signifie cela ? Mais il n'est rien arrivé, etc., etc. Je lui dépeins le caractère insupportable de ma femme et lui dis que je ne suis coupable de rien. « Mais cela ne peut durer ainsi !» s'écrie la sœur. « C'est son affaire et non la mienne. Je ne ferai certainement aucun pas. Si elle veut divorcer, qu'elle divorce !» Ma belle-sœur s'en va sans avoir rien obtenu. J'avais déclaré sèchement que je ne ferais pas le premier pas. À peine ma belle-sœur partie, j'entre dans la chambre des enfants, je les vois complètement abattus. Ah ! Je leur ai fait ce premier pas, mais je ne sais comment m'y prendre. Je vais, je viens, je fume. Au déjeuner, je bois de l'eau de vie et du vin, et j'arrive à l'état que je désirais inconsciemment, ne plus me rendre compte de la sottise et de l'ignominie de ma situation. Vers 3 h, elle rentre et passe devant moi sans me parler. Je la crois apaisée et je commence à lui dire que ses reproches excessifs m'avaient fait sortir de mes gonds. Elle me répond froidement, le visage sévère mais très las, qu'elle ne vient pas pour entendre mes explications mais pour prendre les enfants, que nous ne pouvons désormais vivre ensemble. Je lui réponds que ce n'est pas ma faute, qu'elle m'a mis hors de moi. Elle me dit alors, d'un air sérieux et solennel, « Plus un mot, tu t'en repentirais. » Je réplique que la comédie doit avoir un terme. Elle me crie quelques mots que je ne comprends pas et se précipite vers sa chambre. J'entends la clé grincer, elle s'est enfermée. Je frappe, pas de réponse. Je m'en vais, furieux. Une demi-heure après, Lisa se précipite dans ma chambre, les yeux inondés de larmes. « Qu'y a-t-il ? Est-il arrivé quelque chose ?»«
Tout est tranquille dans la chambre de petite mère, on n'entend pas un moindre bruit. »
Nous y allons ensemble. Je secoue fortement la porte. Le verrou résiste à peine, les battants s'ouvrent. Je m'approche. Elle est étendue sur le lit, dans une position incommode, en jupon, avec ses souliers lacés, sans connaissance. Sur la table, un verre vide avec quelques gouttes d'opium. Nous la rappelons à la vie, un flot de larmes, puis la réconciliation. Au point de réconciliation franche, chacun gardait en son cœur sa haine envers l'autre, mais il fallait en finir. Et notre vie reprit comme auparavant. Des scènes pareilles, pires encore, se répétaient tous les mois, toutes les semaines, parfois même tous les jours. Et les motifs en variaient à peine. Une fois, j'avais résolu de m'enfuir, de tout abandonner. J'avais déjà pris mon passeport pour l'étranger, la dispute ayant duré 2 jours. Puis, de nouveau, mi-explication, mi-réconciliation, et je restais. Telle fut la nature de nos rapports quand cet homme survint. Dès son arrivée à Moscou, cet homme, il s'appelait Trouhaltchevski, nous rendit visite. C'était un matin, je le reçus. Dans le temps, nous nous étions tutoyés. Il variait du vous au tu, revenant le plus souvent au tu, mais je n'employais que le vous et il n'en fit autant sans difficulté. il me n'est plus fort de la première vue. Mais, chose étrange, une force fatale, invincible, me porta à ne point le congédier et à l'admettre au contraire chez moi. Il m'eût été aisé de n'échanger avec lui que quelques mots, de l'éloigner par ma froideur et ne point le présenter à ma femme. Mais non, comme à dessein, je me mis à lui parler de son jeu de violoniste. Il répliqua en disant qu'on avait tort d'affirmer qu'il avait abandonné le violon, mais qu'il en jouait avec plus d'ardeur qu'auparavant. Il me rappela qu'autrefois, je jouais aussi du violon. Oh, je lui dis que j'y avais renoncé, mais que ma femme était une bonne musicienne. Mes relations avec Twardchevski furent telles, dès le premier moment, qu'elles pouvaient être seulement après tout ce qui s'était passé entre ma femme et moi. J'attribuais à chaque mot, à chaque expression de lui ou de moi, une importance particulière. Je le présentais à ma femme. La conversation roula aussitôt sur la musique et il proposa ses services. Ma femme était, comme tous ces derniers temps, très élégante et d'une beauté troublante. Troulachevski lui plut visiblement du premier regard. Elle se montra en outre enchantée d'avoir un accompagnateur pour son piano. Elle en avait tellement plaisir qu'elle avait loué un violoniste de l'orchestre d'un théâtre et son visage exprima ce plaisir. Quand elle eut jeté un regard sur moi, elle comprit ma pensée et changea d'expression. Alors reprirent nos mensonges mutuels. J'eus un sourire aimable et feignis de goûter fort cette nouveauté. Il regarda ma femme comme tous les viveurs regardent une jolie femme. Il feignit de s'intéresser uniquement à notre conversation, précisément à ce qui avait le moins d'intérêt pour lui. Elle fit tout pour paraître indifférente, tandis qu'elle était excitée par la malignité du regard du violoniste et par l'expression de jalousie que je m'efforçais de cacher dans un sourire, mais qu'elle voyait sur mon visage. Je remarquai dès le premier moment que les yeux de ma femme brillaient d'un éclat particulier et que ma jalousie provoquait en eux je ne sais quel courant électrique qui donnait même expression à leur regard et à leur sourire. Il fut question, à cette première entrevue, de musique, de Paris, de mille futilités. Il se leva pour prendre congé, nous regardant tous deux, se dandinant, le chapeau sur la hanche et comme attendant quelque chose. Je me rappelle cette minute justement parce que je pouvais fort bien ne pas le prier de revenir. Je n'avais qu'à ne pas l'inviter et rien ne serait arrivé. Je regardais ma femme, puis Troukhatchevski. « Ne te figure pas que je puisse être jaloux de toi, » dis-je mentalement à ma femme, « ou que j'ai peur de toi, » en m'adressant de même à lui. Et je l'invitais à revenir un prochain soir avec son violon pour faire de la musique avec ma femme. Elle me regarda avec surprise et devint subitement rouge, comme en une sorte de frayeur. Elle chercha à se récuser, disant qu'elle ne jouait pas assez bien. Ce prétexte m'excita plus encore. Je me rappelle le sentiment étrange qui m'envahit lorsque je contemplais, tandis qu'il quittait le salon de son pas léger et sautillant, son cou blanc encadré par ses cheveux noirs retombant des deux côtés, la présence de cet homme. Je ne pouvais me le dissimuler, mais c'était une torture. Mais il ne dépend que de moi, me disais-je, de m'arranger pour ne plus jamais le revoir. Mais aurais-je peur de lui, moi ? Ah, certes, non, oh, ce serait trop humiliant. Dans le vestibule, sachant que ma femme pouvait parfaitement entendre, de nouveau je le priais instamment de venir, et le soir même avec son violon. Il me le promit et partit. Le soir, il vint en effet avec son violon et ils jouèrent. Mais d'abord, l'ensemble ne marcha pas bien. Ils n'étaient pas dans le même ton et ma femme n'était pas assez musicienne pour transposer à première vue. J'aime passionnément la musique, je pris intérêt à leur jeu, je les aidais dans leurs recherches et ils purent jouer quelques morceaux, des chansons sans musique et une petite sonate de Mozart. il jouait à la perfection. Il possédait au suprême degré ce qu'on appelle le ton, un goût sûr et fin, ce qui ne cadrait nullement avec son caractère. Il était évidemment bien plus fort que ma femme. Il lui donna quelques conseils d'un ton simple et naturel, louant en même temps son jeu avec courtoisie. Ma femme semblait se donner tout entière à la musique. Elle était naturelle et charmante. Moi-même, durant toute la soirée, je feignis et je fus pris à ma propre feinte de m'intéresser uniquement à la musique. En réalité, la jalousie me torturait. Dès la première minute où je vis leurs regards se croiser, je compris que la bête qui était en eux, bravant les apparences mondaines, interrogeait « Peut-on ?» et aussitôt la réplique « Oh oui !» Je remarquai qu'ils ne s'étaient pas attendus à trouver en ma femme, dame de Moscou, une femme si attirante, et qu'il en était fort heureux, car il n'avait aucun doute qu'elle consente. Il importait seulement que l'insupportable mari ne vint pas tout compromettre. Si j'avais été pur, je n'aurais pas scruté ses pensées, mais j'agissais de même à l'égard des femmes. Je le compris et j'en souffris beaucoup. Ce qui me faisait surtout souffrir, c'est que j'avais l'assurance qu'elle n'avait pour moi qu'un sentiment d'irritation interrompu de temps en temps par la sensualité habituelle, et d'autre part, je voyais que cet homme devait lui être agréable par ses façons élégantes, par sa nouveauté, par son incontestable talent musical, par le rapprochement qu'exigeaient ses duos, par l'excitation que produit la musique, le violon particulièrement, chez les natures impressionnables. Non seulement il devait lui être agréable, mais il devait la subjuguer sans peine et faire d'elle ce qu'il voudrait. Il m'était impossible de ne pas le comprendre et de ne pas en souffrir horriblement. Malgré cela, à cause de cela peut-être, une force invincible me poussait à être poli, aimable même à son égard. Je ne sais si j'agissais pour faire voir à ma femme que je ne la redoutais pas, ou pour me tromper moi-même. Pour étouffer l'envie que j'avais de la tuer, j'étais contraint d'user de courtoisie envers elle et envers lui. À table, je lui versais à boire, je me montrais ravi de son jeu, je lui parlais de la façon la plus aimable du monde. Puis je l'invitais pour le dimanche suivant. On ferait de la musique et j'inviterais quelques amis amateurs pour l'entendre. Sur cela, il prit congé de nous. Pris d'émotion, Polzinchev changea de position, fit entendre son hoquet particulier, puis reprit, après un effort pour se maîtriser. La présence de cet homme agissait sur moi d'une façon étrange. Deux ou trois jours plus tard, je rentrais à la maison quand, tout à coup, dans le vestibule, je sentis, sans me rendre compte au juste de ce qui en était, comme un lourd fardeau s'appesantir sur mon cœur. Quelque chose dans l'antichambre m'avait rappelé Tchaïkovski. Ce ne fut que dans mon cabinet que je compris ce qui en était. Je revins au vestibule pour vérifier le bien fondé de ma supposition. C'était bien son manteau. Je ne m'étais pas trompé. J'étais inconsciemment un observateur très fin pour tout ce qui se rapportait à lui. Je m'enquis, il était là, en effet. Au lieu de passer par le petit salon pour me rendre dans le grand, je traversais la chambre des enfants. Lisa parcourait un livre. La nourrice amusait avec un couvercle quelconque le dernier né qu'elle tenait dans ses bras. J'entends, venant du salon, dont la porte était fermée, des arpèges lents et leur voix à elle et à lui. Les sons du piano assourdissaient, sans doute exprès, les paroles, les baisers peut-être. Grand Dieu ! Quels sentiments, quelles pensées s'emparèrent de moi ! Je ne puis songer sans effroi à la bête déchaînée en moi à ce moment. Mon cœur se serra, s'arrêta, puis se remit à battre comme un marteau. Le sentiment dominant, comme à toutes mes heures d'irritation, était une grande pitié pour moi-même.
En présence de mes enfants, pensais-je, en présence de la nourrice, elle me déshonore. J'avais sans doute un air terrible, car Lisa me regardait avec des yeux étranges. Que faire, me demandais-je. Entrer? Impossible. Je me livrerai à quelque esclandre. Mais je ne puis non plus m'éloigner. La nourrice me regardait comme si elle comprenait mon état. Il fallait entrer, cependant. J'ouvris brusquement la porte. Il était assis au piano et faisait des arpèges avec ses longs doigts recourbés. Elle était debout au coin du piano, devant les cahiers ouverts. Elle m'avait vu ou entendu la première et jeta un regard sur moi. Fut-elle ou non saisie, ou fit-elle semblant de ne pas l'être? Ce qui est certain, c'est qu'elle ne tressaillit pas, elle ne bougea pas. Elle rougit un peu seulement, mais plus tard. « Ah, que je suis heureuse que tu sois venue! Nous ne savons encore ce que nous jouerons dimanche, » dit-elle sur un ton qui ne lui était pas habituel dans nos tête-à-tête. Ce ton, ce « nous » m'indignèrent. Je le saluai froidement. Il me serra la main avec un sourire qui me parut railleur. Il m'expliqua ensuite qu'il avait apporté des partitions afin de se préparer pour le dimanche, mais qu'il n'était point d'accord sur ce qu'il jouerait. Serait-ce une sonate de Beethoven, des morceaux classiques et quelque peu difficiles, ou bien quelque chose d'une exécution plus facile? Mais tout cela était si simple, si naturel, que je ne pouvais vraiment me fâcher. Cependant, je voyais, je sentais que cela n'était qu'hypocrisie et qu'ils étaient d'accord sur la manière de me tromper. Le plus grand tourment pour un jaloux, et qui n'est jaloux dans notre monde, vient de ces conventions mondaines qui, sous des prétextes divers, précipitent l'un vers l'autre en une intimité dangereuse un homme et une femme. On deviendrait la risée de tous si on voulait s'opposer à ces rapprochements, aux bals, aux relations des médecins avec leurs malades et des artistes entre eux, des peintres et surtout des musiciens. Deux personnes s'occupent de musique, le plus noble des arts, et cette occupation exige un rapprochement, qui d'ailleurs ne peut paraître blâmable qu'aux yeux d'un sot jaloux. Un mari de bonne éducation ne doit pas avoir de ses pensées, et surtout ne doit pas s'immiscer à ses affaires. Et tout le monde sait cependant que ce sont des occupations de cette nature, de la musique particulièrement, qui font naître dans notre société la plupart des adultères. Le silence que je gardais pendant quelques instants les avait visiblement gênés. J'étais comme une bouteille renversée dont l'eau ne coule plus parce qu'elle est trop pleine. Je voulais lui jeter une insulte à la face, le chasser, mais je n'en fis rien, au contraire. Je m'estimais coupable de les avoir dérangés. J'eus l'air de tout approuver, et ce sentiment qui me dominait me porta à être aimable au possible avec lui, malgré le martyre que me causait sa présence. Je répondis que je m'en rapportais à son goût, et que ma femme, si elle voulait suivre mon conseil, agirait de même. Il resta juste autant qu'il était nécessaire pour effacer la mauvaise impression produite par ma brusque entrée et ma figure épouvantée. Puis il s'en alla, paraissant satisfait des décisions prises pour le lendemain. J'avais la conviction, quant à moi, que cette question de musique était de beaucoup subordonnée à leur autre préoccupation. Je l'accompagnai jusqu'au vestibule avec la plus grande courtoisie. Comment ne pas accompagner un homme qui vient chez vous pour troubler la paix et anéantir le bonheur de toute une famille? Et je serrai avec une vive affabilité sa main blanche et douce. De toute la journée, je n'adressais pas la parole à ma femme, je ne le pouvais pas. Sa proximité provoquait en moi une haine telle que j'avais peur de moi-même. Elle me demanda à table, en présence des enfants, quand je partirais pour mon voyage. Je devais aller la semaine suivante à une assemblée du Zemsvo. Je lui répondis. Elle s'enquit sur mes besoins de la route. Je ne répondis plus un mot et regagnai silencieux mon cabinet de travail. Les derniers temps, elle n'entrait jamais dans mon cabinet, surtout à cette heure. Tout à coup, je reconnus ses pas qui approchaient. Une pensée terrible, ignoble, envahit mon âme. Venait-elle chez moi à cette heure indue, comme la femme d'Uric, pour cacher une faute déjà commise? Venait-elle réellement chez moi? Et ses pas se rapprochaient. Mais si elle venait, j'avais donc raison. Une haine terrible s'empare de moi. Les pas se rapprochent encore. Passerait-elle par là pour aller au salon? Non, la porte grince, et sur le seuil, elle apparaît en sa taille haute et souple, douce et gracieuse. Dans ses traits, dans ses regards, une timidité, une expression insinuante qu'elle veut dissimuler, mais qui me saute aux yeux et dont je saisis toute la portée. Je faillis étouffer tellement je retenais ma respiration et, sans cesser de la regarder, je pris une cigarette et l'allumai. Mais que signifie ceci? Je viens chez toi pour causer et tu allumes une cigarette, dit-elle en s'asseyant près de moi et en appuyant sa tête sur mon épaule. Je me retirai pour ne pas la toucher. Non, tu préférerais que je ne joue pas dimanche, je le vois, dit-elle. Oh, du tout, répondis-je. Oh, est-ce que je ne le vois pas? Eh bien, si tu le vois, je t'en félicite. Ce que je vois, moi, c'est que tu te conduis comme une cocotte. Oh, si tu dois jurer comme un charretier, je m'en vais. Eh bien, va-t'en, ça m'en fait bien attention. Que si l'honneur de la famille n'est rien pour toi, il m'est sacré à moi. Fais bien attention, et que le diable t'emporte. Mais quoi? Qu'y a-t-il? Va-t'en, pour l'amour de Dieu, va-t'en. Elle ne s'en alla point. Feignit-elle de ne pas comprendre ou ne comprit-elle pas vraiment? Il est certain en tout cas qu'elle était offensée et elle se fâcha. Elle se leva et s'arrêta au milieu de la chambre. « Mais tu es devenu insupportable, » fit-elle. « Un ange même ne saurait vivre avec toi. » Et, désirant me blesser aussi profondément qu'elle pouvait, elle ajouta « Oh, après ta conduite envers ta sœur, rien ne m'étonnera plus dans ta conduite envers moi. » Elle faisait allusion à un incident avec ma sœur pendant lequel, hors de moi, je lui avais dit des grossièretés. Elle savait que ce souvenir m'était cuisant et elle cherchait à raviver la plaie. « Bien, me disais-je, offensé, humilié, injurié, et me rendre ensuite responsable. » Soudain, une fureur indicible, une rage que je ne m'étais jamais connue, s'empara de tout mon être. Pour la première fois, j'éprouvais le besoin de traduire cette rage en mouvement. Je sursautais, et sur l'instant même, je me demandais s'il était bon de me laisser emporter par mon accès. « Oui, me répondis-je, ça l'intimidera. » Et au lieu de combattre cette rage, je l'attisais, heureux de la sentir bouillonner en moi. « Va-t'en ou je t'assomme » criai-je d'une voix épouvantable en la saisissant par le bras. J'accentuais intentionnellement ma colère, et sans doute avais-je un aspect effrayant, car elle fut si intimidée qu'elle n'eut pas la force de s'éloigner et ne fit que répéter « Mais qu'as-tu donc, Gracia ? T'en iras-tu enfin ?» hurlai-je en roulant des yeux terribles. « Mais tu me rendras fou ! Je ne réponds pas de moi, sors donc !» En m'y abandonnant, je m'enivrais de cette fureur, et je voulais, pour en montrer le degré, me laisser aller à quelque acte de brutalité. J'éprouvais comme un besoin de la battre, de la sommer, mais je savais que cela ne se pouvait pas, et je me contins. Je m'élançai vers mon bureau, je pris un presse-papier et je le jetai sur le plancher à ses côtés. J'avais visé de façon à ne pas l'atteindre. Alors elle se leva pour sortir, mais s'arrêta à la porte.
Je continuai à lancer des objets de manière à ce qu'elle le vît. Je pris un chandelier et l'envoyai rejoindre le presse-papier. J'arrachai le thermomètre du mur, toujours hurlant « Va-t'en, va-t'en, je ne réponds pas de moi !» Elle partit. Je me calmai aussitôt. Une heure après, la nourrice vint me dire que sa maîtresse avait une crise de nerfs. J'allai la voir. Elle sanglotait, riait, incapable d'articuler un mot et tremblant de tout son corps. Or, ce n'était pas une feinte, elle était réellement malade. Au jour, elle se calma, et nous nous réconciliâmes sous l'influence de ce sentiment que nous nommions amour. Le lendemain, je lui avouai que j'étais jaloux de Tukhachevski. Elle ne fut en rien embarrassée, se mit à rire de l'air le plus naturel, tant lui parut étrange la possibilité de céder à un pareil homme. Est-ce qu'une honnête femme peut éprouver pour un tel homme un sentiment autre que le plaisir de faire de la musique avec lui ? Demanda-t-elle. Ben, si tu y tiens, je suis disposée à ne plus le revoir de ma vie, même dimanche, bien que nos invitations soient lancées. Écris-lui que je suis souffrante et tout sera dit. Une seule chose m'ennuie, c'est que quelqu'un puisse croire, surtout lui, qu'il soit dangereux. Ma fierté est blessée d'une telle idée. » Et elle ne mentait pas. Elle croyait réellement ce qu'elle disait. Elle espérait, par ses paroles, faire naître en son cœur du dédain pour lui, mais elle n'y réussit pas. Tout se tournait contre elle, surtout cette diable de musique. La querelle prit ainsi fin. Le dimanche, nos invités arrivèrent. Tukhachevski et ma femme firent encore une fois de la musique ensemble.